Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de Néhémie, Néhémie chapitre 6. Avant de prendre le temps de considérer ce chapitre plus en détail, rappelons-nous de la signification spirituelle de ce récit de la reconstruction des murailles de Jérusalem et la restauration des portes de Jérusalem. Lors de ma dernière prédication, ici, nous avons vu au chapitre 4 qu'il y a, chapitre 3 et 4, qu'il y a une muraille à bâtir, un rempart à bâtir autour de la ville de notre âme. Il y a aussi une muraille de témoignage qui doit s'élever autour de l'assemblée des frères et sœurs, l'Église de Christ. Puis il y a aussi un rempart, une muraille de témoignage à ériger dans le royaume de Dieu, dans le monde. Alors que nous nous efforcions de bâtir un rempart autour de notre âme, nous enracinant, en étant fondés dans la parole de Dieu, en construisant sur le seul fondement Jésus-Christ, ou alors si nous nous efforçons de bâtir un rempart autour de notre assemblée et vraiment d'amener tout l'amour, la compassion, la compréhension, l'harmonie, l'unité, ce témoignage de foi envers les uns et les autres, mais aussi le témoignage dans le royaume de Dieu. Jésus a dit, vous êtes lumière du monde. Que fait-on avec une lumière? Est-ce qu'on la met sous le boisseau? Non. Où est-ce qu'on la met? Là où elle peut être vue et perçue. Et c'est important. Mais nous avons aussi découvert, dans notre étude, à travers ce récit, de tout ce que Néhémie et le peuple ont été confrontés, c'est qu'il n'y a pas de gain sans combat. Il n'y a pas de gain sans combat, il n'y a pas d'opportunité sans opposition, il n'y a pas de victoire et succès sans la vigilance et le travail. Car chaque fois que le peuple de Dieu se mobilise et déclare « Levons-nous et bâtissons », l'ennemi se manifeste et déclare « Je me lèverai et j'opposerai ». Chaque fois que le peuple de Dieu se mobilise, se lève et déclare « Levons-nous et bâtissons », l'ennemi se manifeste et déclare « Je me lèverai et j'opposerai ». Donc c'est une autre vocation pour nous, enfants de Dieu, son peuple, de travailler à l'édification de nos âmes. Nous sommes le temple de Dieu. C'est à nous de nous focaliser sur l'édification de l'Assemblée, en nous engageant les uns envers les autres et en construisant ensemble. Nous avons noté que le chapitre 3 contenait une description d'ensemble comprenant toute la période où cette muraille a été reconstruite à Jérusalem. Chapitre 4 et les chapitres 6 nous relatent les difficultés que Néhémie et le peuple rencontrent pendant les travaux. Au chapitre 4, c'était l'effort des ennemis pour contraindre les ouvriers de cesser le travail. Et cet effort a été brisé par l'initiative et l'énergie de Néhémie, qui fait prendre les armes aux hommes de Juda, sans pour autant abandonner leur caractère d'ouvrier, l'épée dans une main, la truelle dans l'autre, prêt à repousser tout assaut. Et bien sûr, dans ce chapitre 6, nous examinons aujourd'hui l'ennemi qui se présente non pas sous une forme physique menaçante, mais aussi sous une forme nouvelle. Il se montre en opposition en utilisant de la subtilité pour essayer de déstabiliser ceux qui œuvraient sur les remparts, à attirer Néhémie et le peuple dans un piège, sous un masque d'amitié, plutôt que de tenter de les décourager en déployant leurs forces. Donc si dans le chapitre 4, l'ennemi se présente comme un lion rugissant, dans le chapitre 6, il cherche à séduire par ses artifices. Et ce sont là les deux formes constantes auxquelles nous, peuple de Dieu, nous sommes confrontés. 2 Corinthiens 2:11 déclare ceci, car il ne faut pas que ce soit Satan qui prenne l'avantage de la situation et qui finalement, par ses ruses, remporte la victoire. Nous ne connaissons que trop bien ses manœuvres et ses desseins. Puis ce chapitre 6 de l'Épître aux Éphésiens, que vous connaissez bien, de nous revêtir de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir faire quoi ? De tenir ferme contre les ruses du diable. Et 1 Pierre 5:8 nous rappelle d'être sobre de veiller. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Le Seigneur, tout comme Néhémie, veut nous utiliser, chacun de nous, comme un instrument entre ses mains. Et bien sûr, parfois dans des circonstances difficiles. Pour Néhémie, les adversaires cherchaient à le supprimer. Et si leur plan réussit, eh bien toute l'œuvre tombera avec le serviteur à qui Dieu avait confié cette tâche. Bien sûr, cet effort dangereux sera déjoué au cœur de ce chapitre 6. Et à travers l'exemple de Néhémie, le Seigneur nous montre les qualités que nous devons développer pour résister à l'assaut de l'ennemi. Mais avant tout, ce qui doit passer d'abord, c'est avoir cette confiance entière dans notre Seigneur. La confiance se traduit au verset 9, le chapitre 6, verset 9, par cette parole de Néhémie. Et il fait appel à son Seigneur. Il dit, « Maintenant donc, fortifie mes mains, car il sait qu'il n'y a aucune force en lui-même pour résister à ses attaques. Il cherche son appui et sa force qui est en Dieu. » La première phrase du verset 15 est d'une importance capitale parce qu'en fait, elle résume un petit peu les travaux de construction. Nous lisons ceci, « La muraille fut achevée le 25 du mois d'Eloul en 52 jours. 52 jours. Et l'explication de ce succès, de cet achèvement dans l'œuvre de reconstruction dans laquelle Dieu appelle ses serviteurs, c'est à travers deux volets, deux choses pour conduire la stratégie et les travaux. D'abord, le premier volet, verset 16, l'ouvrage avait été accompli par la volonté de notre Dieu. Le second volet, c'est le sujet de l'ensemble du chapitre 6. Vous savez, il y a toujours ces deux dimensions, deux volets dans l'œuvre de Dieu. Le premier volet, d'abord, d'ordre divin. Le second est d'ordre humain. Le premier est le fait que l'œuvre s'accomplit par la volonté de Dieu, en tout temps, à jamais. Le second, c'est que l'œuvre comporte une collaboration, une association, une coopération de la part de ses enfants, de ses serviteurs. Donc je vais tenter de construire cette méditation ce matin autour de ces deux pôles. Commençons d'abord par l'aspect, la conception divine. Le succès, la réussite dans cette entreprise a été accompli parce que Dieu avait une œuvre que lui-même désirait et avait initiée. Il en est l'auteur. De ce fait, il accorde la puissance pour la mener à bien. Verset 16, « Lorsque tous nos ennemis l'apprirent, tous les païens qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Ils furent très humiliés à leurs propres yeux et s'aperçurent que l'ouvrage avait été accompli par la volonté de notre Dieu. » Ce qui est important, c'est à noter que si l'œuvre n'a pas été conçue dans le cœur de Dieu, elle ne prendrait jamais racine dans nos cœurs. Et la parole nous dit que l'œuvre que Dieu a commencée en vous, il la rendra quoi ? Parfaite. Il est à l'œuvre dans nos vies. Alors bien sûr, on aimerait voir des améliorations tout de suite, n'est-ce pas ? Mais Dieu nous façonne. Il nous construit. Dieu avait saisi son serviteur Néhémie. Il avait trouvé en lui une personne disposée à faire sa volonté. Et c'est ça la question que je vous laisse aujourd'hui, c'est « Es-tu disposé, toi, à faire la volonté de Dieu pour ta propre vie ?» Disposé à coopérer avec Dieu afin d'être utile, afin d'être efficace. Le résultat ici, c'est que la muraille fut achevée. Donc d'un côté, ce plan conçu dans les lieux célestes, de l'autre côté, les serviteurs entièrement soumis à la volonté pour leur vie. Et ce passage nous expose que malgré tous les stratagèmes, les manœuvres de l'ennemi, l'œuvre de Dieu, la construction de la muraille ici, n'était aucunement retardée. La foi, le courage de Néhémie n'ont jamais vacillé. Ainsi, la construction a pu avancer, soutenue par le zèle que Dieu donnait et qui n'avait pas diminué. Et ce verset 15 nous le rappelle. Hein. En 52 jours, je crois que le premier mot de ce verset est important. « Et la muraille fut achevée. » Et ce mot « est à la place assez remarquable et pourrait signifier de cette manière ou malgré tout ou en dépit d'eux, la muraille fut achevée. Et cette rapidité dans l'exécution de ce travail témoigne aussi de l'énergie, le zèle des travailleurs sous la conduite d'Néhémie. Parce que le chapitre 7, verset 4, nous dit que la ville était spacieuse et grande. Et l'entourer d'une muraille en 52 jours, ce n'est pas une mince affaire. Et ce n'est pas une petite réussite. Mais on peut comprendre aisément cette réussite, si nous rappelons que l'œuvre venait de Dieu, l'œuvre était pour Dieu, et que lui-même donnait force et courage et travaillait dans leur vie, eux qui construisaient la muraille. Et même les adversaires ont été forcés de l'avouer. Verset 16, il arrive que lorsque tous les ennemis l'apprirent, toutes les nations qui nous environnaient craignirent et furent fort abaissées à leurs propres yeux. Elles reconnurent que cette œuvre était faite de la main, était faite de par notre Dieu. Alors jusque-là, les ennemis avaient été fort contrariés, irrités, mais maintenant, quand ils entendent des voix que la muraille était achevée, tous leurs espoirs, tous leurs projets d'opposition sont anéantis. Et par cette muraille, la protection et la sécurité du peuple de Dieu est assurée. Mais uniquement s'ils la maintiennent dans la sainteté. Elle est donc une barrière infranchissable pour l'ennemi. Je crois que cette fait qu'ils furent fort abaissés à leurs propres yeux est une description du temps dont le parle le psalmiste. Dans le psaume 48, verset 2, en parlant de Jérusalem, la ville que Dieu s'est choisie, belle dans son élévation, la joie de toute la terre est la montagne de Sion. Au côté du nord, la ville du grand roi. Dieu est connu dans ses palais pour une haute retraite. Car voici, les rois se sont assemblés, ils ont passé outre ensemble, ils ont vu, ils ont été étonnés, ils ont été troublés, ils se sont enfuis consternés. Là, le tremblement les a saisis, une angoisse comme celle de la femme qui enfante. Maintenant, venons-en, après cette conception divine, à vraiment la coopération des serviteurs de Dieu. Qu'est-ce que Dieu exige de notre part en tant que ses serviteurs, nous qui formons son peuple? D'après les principes dans ce récit, cette coopération est d'abord une détermination. Détermination de résister à tout prix aux assauts de l'ennemi. De revêtir les armes de lumière, les armes de justice, ces armes spirituelles, pour repousser les attaques et les traits enflammés de l'ennemi. Ici, la muraille est sur le point d'être achevée. Et c'est là où l'opposition vient avec acharnement, dans un dernier effort désespéré pour faire cesser les travaux. Et notons à quoi Néhémie, le peuple, était confronté. Trois sortes d'attaques, ruses ou manœuvres diaboliques. D'abord, l'amitié trompeuse. Verset 1er. Lorsque Sanballat, Tobia et Geshem, l'arabe, et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche, à ce moment-là, je n'avais pas encore posé les battants des portes. Sanballat et Geshem m'envoyèrent dire, « Viens, ayons ensemble l'entrevue à Képhirim, dans la vallée d'Ono. » Ils avaient médité de me faire du mal. Je leur envoyai des messagers avec cette réponse, « J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Pourquoi l'ouvrage serait-il interrompu pendant que je le quitterais pour descendre vers vous ?» Ils envoyèrent 4 fois le même message et je leur rendis la même réponse. Ainsi, sous la bonne main de Dieu, parce que Néhémie avait dit, la bonne main de Dieu est sur moi. À cause de cette vigilance, diligence, cette persévérance, tous les obstacles avaient été surmontés les uns après les autres et les travaux touchés à leur terme. Plus de brèches dans les murs. Et par conséquent, maintenant, plus de moyens pour l'ennemi de s'infiltrer. Les portes n'étaient pas encore posées, mais ces entrées étaient bien surveillées. Et les ennemis ne pouvaient que s'introduire que par les portes. Et c'est pourquoi, pour eux, le moment était venu de tenter une dernière chose. Et en conséquence, ils proposent une conférence. Comme si eux aussi prenaient à cœur le bien-être, soudainement, d'Israël. Mais quand nous marchons, nous serviteurs et servants du Seigneur, dans sa présence, quand nous avons l'intention arrêtée de chercher le chemin et la volonté de notre Dieu, nous ne sommes jamais trompés par les ruses de Satan. C'était le cas pour Néhémie. C'est pourquoi il ajoute, « Mais il pensait à me faire du mal. » Pourquoi dit-il cela? Tout simplement parce que les ténèbres ne pouvaient avoir communion avec la lumière. Satan ne peut regarder avec plaisir l'œuvre de Dieu parce qu'il s'est toujours opposé à l'œuvre de Dieu. Et que, haïssant le maître, il haït aussi ses serviteurs. De ce fait, Néhémie avait vite compris, tout de suite, quelles étaient les intentions, le but de Sanballat et de ses compagnons. Je fais un grand travail et je ne puis descendre. Néhémie avait donc la pensée du Seigneur en envoyant cette réponse, sans parler de la connaissance qu'il avait aussi de la méchanceté de ses ennemis et de leurs intentions meurtrières. Il faisait un grand travail et c'était son affaire devant Dieu de persévérer. Même si certains le prient de « Oh, te donne pas autant de mal. Prends un peu de temps. Descends. » Mais descendre ne serait pas arrêté? Certainement. Pour lui, impossible d'arrêter, impossible de descendre. Parce que telle est l'exigence de la mission que le Seigneur nous a confiée. Allez. Allez. C'est le mot d'ordre qu'il nous a laissé. Non seulement pour faire des disciples, mais pour briller comme des lumières dans ce monde. Être ce sel de la terre qui prévient la corruption ambiante. Et nous avons intérêt à tirer instruction de l'exemple de Néhémie, ce fidèle serviteur. De ce fait, nous allons nous éviter bien des pièges. Nous savons ce que fait l'oiseleur, hein. Il tend ses filets. Et là, un pas à côté et on tombe dans son filet. Le travail du Seigneur ne peut pas être laissé de côté. Si nous entreprenons cette grande entreprise, nous ne pouvons pas mettre de côté pour un temps selon notre volonté. Parce que quand le Seigneur, lui, vient mettre quelque chose entre nos mains, cela requiert nos soins constants. Toute notre attention mérite que toute notre énergie soit mise en œuvre. Voici ce que déclare Ecclésiaste 9, verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le selon ton pouvoir, si du moins cela vient du Seigneur. Et puisque ça vient du Seigneur, eh bien, il le fait avec le pouvoir que Dieu lui donne. Mais l'ennemi ne se contente pas d'en rester là. Verset 4, ils m'envoyèrent dire la même chose 4 fois. Si la fidélité caractérise Néhémie dans son refus d'aller les rencontrer, c'est la sagesse de Dieu qui apparaît premièrement dans sa manière de répondre. C'était de la même manière. Les circonstances n'avaient pas changé. Et par conséquent, la première réponse était suffisante. Pas besoin d'en rajouter. Donc on le répète. Mais l'ennemi voulait jouer sur la faiblesse du cœur humain. Et l'ennemi de nos âmes sait que parfois nous nous laissons entraîner sous des sollicitations répétées. Ça avait été le cas pour Samson. Il avait autant de raisons de refuser de dire son secret à la fin, tout comme au début. Mais il est arrivé sous la tourmente de Delilah par ses paroles, tous les jours, qui le pressait que son âme soit ennuyée jusqu'à la mort. Il déclare tout ce qui était dans son cœur pour sa plus grande douleur et sa perte, nous dit le livre de Juges, chapitre 16. Et si nous ignorons les ruses de Satan, alors nous aussi, on peut tomber dans le panneau. L'ennemi de nos âmes s'acharne à nous pousser au compromis, pas juste dans nos vies, mais aussi dans les assemblées. Il veut nous persuader qu'il n'y a aucun mal de délaisser le combat et l'œuvre de Dieu pour un temps afin de fricoter avec les méchants, les pécheurs et les moqueurs. Rappelons-nous le psaume premier. L'homme heureux, c'est celui qui, quoi ? Ouais. Qui ne fraternise pas avec ces personnes-là. Toute personne qui cherche à servir Dieu fidèlement se trouve être une cible. Et l'ennemi cherche à nous pousser à délaisser les principes de vie chrétienne, biblique, que le Seigneur nous a laissés. Et c'est là que réside le danger. Et les épîtres en parlent de cette amitié du monde et les dégâts que cela peut faire. Alors non seulement il y avait l'amitié trompeuse, mais aussi, versets 5 à 7, la calomnie. La calomnie subtile. N'ayant pas réussi à séduire Néhémie par le premier moyen, les ennemis cherchent à le pousser, à essayer d'avoir une autre approche, une calomnie contre lui. Sanballat m'envoya ce même message une cinquième fois par son jeune serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Il y est écrit « Le bruit se répand parmi les nations » Et Gachmou affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter. Et que c'est pour cela que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir leur roi. Tu as même établi des prophètes pour programmer à Jérusalem à ton sujet. Il y a un roi en Juda. Maintenant, des rumeurs de ce genre arriveront à la connaissance du roi. Viens donc. Et consultons-nous ensemble. Sanballat cherche à inquiéter Néhémie, de porter atteinte à sa réputation, de le pousser à cette crainte que sa manière d'agir est mal interprétée. Et c'est là un masque très subtil. Parce qu'il insinue dans sa lettre trois accusations distinctes. Que si elles étaient rapportées de cette manière au roi, pourraient non seulement nuire à la réputation de Néhémie, mais le mettre en grave danger. Premièrement, de quoi parle-t-il ? Il parle de rébellion. Et il cite même un témoin, Gachmou l'Arabe. Puis il suggère que ce qui, si cette accusation était vraie, pourrait bien l'étayer, savoir que son but, en rebâtissant la muraille, c'était pour se proclamer lui-même roi. Et enfin, Sanballat affirmait qu'on rapportait que Néhémie avait établi des prophètes pour prêcher à son sujet dans Jérusalem. Il y a un roi en Juda. Mais Sanballat, cet ennemi du peuple de Dieu, ne pouvait pas cerner les vraies motivations de Néhémie et de tous ceux qui prenaient part à la reconstruction des murailles, ni comprendre leur engagement et leur dévouement. Et donc, il voulait bien conclure que si on sème la sédition et la rébellion, et qu'on dise que c'est ce qu'ils sont en train de faire, ils vont être dans une situation difficile. Ils menacent de faire remonter tous ces soi-disant infos au roi qui était bien ailleurs, à Babylone. Et comptait là intimider et mettre Néhémie sur la défensive pour qu'il descende des remparts, qu'il cesse les travaux. Parce qu'il voulait qu'il descende pour tenter de justifier ses accusations et de répondre aux calomnies. Cependant, Sanballat avait affaire avec quelqu'un dont la confiance était en Dieu. Et en Dieu seul, pas en lui-même, mais en Dieu. Et il savait que le Seigneur lui donnait sagesse et force. Ainsi, cette attaque contre Néhémie, comme la précédente, échoue lamentablement. Et la réponse à cette lettre est la simplicité même. C'est un démenti catégorique des insinuations exprimé en quelques mots. En même temps, il fait remonter la source des accusations au méchant cœur de Sanballat. Verset 8. Aucune des choses dont tu parles n'a eu lieu, mais tu les inventes dans ton propre cœur. Manière diplomatique pour lui dire, tu es un menteur. Cette réponse nous enseigne qu'il ne faut jamais argumenter avec l'adversaire de nos âmes. Repousser ces accusations, nous le pouvons. Mais si nous voulons commencer à raisonner ou donner des explications, on est sur un terrain miné. Si Néhémie seul avait été concerné, tout se serait bien passé. Mais en tant que conducteur, il agissait, lui, en faveur et au nom aussi du peuple. Et il représentait le Seigneur. Il ne pouvait pas leur infuser sa confiance en Dieu et son courage. Donc, il doit le manifester lui-même. Et c'est ce qu'il exprime dans les paroles du verset 9, « Car ils voulaient tous nous effrayer, disant, leurs mains se lasseront du travail, et il ne se fera pas. » Et donc, le « nous » ici représente réellement tous ceux qui œuvrent à la reconstruction. Néhémie s'identifiant avec eux. Et voilà le but de Satan. Il cherche à nous épuiser en lançant des assauts continuels. Sans cesse nous envoyer des traits enflammés que seul le bouclier de foi peut arrêter et éteindre. Et sans ce bouclier, ces attaques ne pouvaient qu'amener découragement, crainte et même la ruine. Et personne ne savait cela mieux que ce fidèle serviteur, Néhémie, dévoué à son Seigneur. Il savait, lui, se servir des armes défensives contre un adversaire rusé. C'est pourquoi, tandis qu'il maintenait une vigilance infatigable contre l'ennemi, il priait sans cesse. L'ennemi avait dit, ils perdront courage, verset 9, et l'ouvrage ne se fera pas. Mais Néhémie, qu'est-ce qu'il fait? Il prie. Et voici sa prière. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Rien n'est plus beau que le spectacle de cet homme de Dieu. Pressé de toutes parts, il se tourne vers le Seigneur pour recevoir les forces nécessaires. Que peut faire l'ennemi contre un tel serviteur? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui pourra résister? Que pouvait faire l'ennemi contre celui qui s'appuie sur le Dieu Tout-Puissant et qui trouve en lui sa protection et son abri? C'est l'ennemi qui se retrouve sans force aucune et doit reconnaître sa défaite en changeant de front d'attaque, en se servant d'une autre ruse. Cette fois-ci, c'est le scandale, scandale religieux. Sanballat, quand il voit l'inutilité des attaques dirigées de l'extérieur, Il cherche à conspirer contre Néhémie depuis l'intérieur. Voici ce qui est dit au verset 10. Je me rendis chez Shemaïa, fils de Delaïa, fils de Mehetabel. Il s'était enfermé et dit, allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons les portes du temple. Car ils viennent pour te tuer. Et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Comme nous le lisons dans ce récit, l'ennemi, en fait, était vraiment l'obstacle au succès de l'ennemi, donc objet de toute sa haine. Parce que même s'il était environné de l'infidélité générale, lui restait fidèle, soutenu dans son sentier par la grâce de Dieu. Et je crois que, pour cette raison, il devait trouver ce chemin bien solitaire. Ennemis à l'extérieur, oui, on sait qu'il y en a. Maintenant, il découvre que certains de ses prétendus amis faisaient partie du complot. Mais remarquez la subtilité de cette dernière tentation. Évidemment, Néhémie avait rendu visite, une visite de sympathie, d'amitié à Shemaïa, qui se trouvait enfermé. Et cet ami, passant très en souci de la vie de Néhémie, lui propose une rencontre dans le temple pour être à l'abri. Il invoquait ses craintes. Peut-être qu'il agissait par amour et bienveillance. Et le lieu sacré où le prêtre de se cacher semblait aussi sanctifier sa proposition. Mais la conspiration, à nouveau, va manquer la cible. Ou plutôt, les traits enflammés de l'adversaire ne réussiront pas à pénétrer la foi invincible de Néhémie, qui reste droit, intègre et fidèle. Je répondis, un homme comme moi, prendre la fuite, et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et y vivre? Je n'entrerai pas. Qu'importe ma vie, qu'importe. C'est à mon poste que je dois mourir. Et fuir, ce serait renier le vrai caractère de Dieu et exposer aux autres la puissance victorieuse de l'ennemi. Et par grâce, Néhémie n'était pas de ceux qui tournent le dos au jour de la bataille. Donc, il peut faire face aux sollicitations de son ami en déclinant résolument la proposition qui lui était faite. Et dès qu'il dit cela, on comprend, ou lui comprend plutôt, tout le caractère des desseins de l'ennemi. Il découvre le mal et l'hypocrisie et l'œuvre pour tenter de le piéger. Je m'étais aperçu que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait, mais il avait prophétisé ainsi sur moi parce que Sanballat et Tobia l'avaient soudoyé. En le soudoyant ainsi, ils avaient espéré que j'aurais de la crainte et que je suivrais ses avis et commettrais un péché. Et il m'aurait fait une mauvaise renommée pour me déshonorer. Cela me fait penser au psaume 55, verset 12. La fraude et la ruse ne quittent pas ses places, car ce n'est pas un ennemi qui me déshonore. Je le supporterai. Ce n'est pas celui qui me hait qui s'élève contre moi. Je me cacherai de lui. C'est toi, un homme comme moi, mon confident, toi que je connais bien, ta fraude et ta ruse sont évidentes. Voilà donc le secret. C'est l'ordre des ennemis qui avait corrompu les prophètes de Dieu, qui avertissaient, soi-disant, Néhémie, au nom du Seigneur, alors que ce n'est pas Dieu qui les avait envoyés. Nous avons de multiples prophètes aujourd'hui qui s'élèvent et qui disent parler au nom de Dieu, prétendre à une révélation continue. Prenons garde, chers frères et sœurs, ce sont des fraudeurs, des imposteurs, en fait ennemis de Dieu, quoi qu'ils prétendent être. Voilà la clé. L'ordre de l'ennemi les envoie vers Nathan, vers Néhémie. Les prophètes se mettent eux-mêmes dans l'embarras parce qu'on ne peut pas servir Dieu et Mammon. Nul ne peut servir de maître. Et du moment qu'ils prenaient un présent de Mammon, ils étaient pieds et poings liés à ce maître et en fait disqualifiés en tant que messagers de Dieu. Et quelle douleur devait ressentir Néhémie dans son cœur pour découvrir les influences corruptrices de l'ennemi dans le cercle du peuple de Dieu. Parmi ceux qui auraient dû être l'oracle de Dieu pour parler et encourager le peuple. Quel contraste avec ce que nous lisons dans le livre d'Esdras, chapitre 5, verset 2, où il est dit, « Et avec eux, Zorobabel et Yeshua étaient les prophètes qui les assistaient, qui les soutenaient. Les prophètes du temps de Néhémie collaboraient avec l'ennemi au lieu d'aider avec l'œuvre de Dieu. » Hélas, que de fois c'est le cas qui se présente depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui. Ceux qui ont occupé la place de prophètes, prétendant communiquer la pensée de Dieu, sont à la solde et au service de Satan. Encore aujourd'hui, les opposants les plus subtils à la vérité de Dieu, à l'œuvre du témoignage qui doit être construite, ce rempart de séparation, viennent nous dire que tous les hommes sont frères et tous ont droit au paradis. En fait, ils sont en train de dire il y a d'autres chemins qui mènent à Dieu. Le but de Shemaïa, de la prophétesse Noadia et le reste des prophètes, c'est qu'ils voulaient détruire la réputation de Néhémie, l'effrayer, détruire sa confiance et l'amener à pécher. Et cet homme fidèle, comme je l'ai déjà remarqué, subissait les assauts et tous les artifices de Satan. Parce que si l'ennemi réussissait à l'abattre et à le vaincre, alors dans quel camp serait la victoire ? À ce moment, pour autant que cela nous est révélé, la cause de Dieu à Jérusalem dépendait du courage et de la fidélité de ses serviteurs. C'est pour ça que Satan cherchait par tous les moyens à le faire circonvenir. Mais vague après vague, contre eux, par la grâce de Dieu, il reste solide, ferme, sans se laisser ébranler par cette opposition manifeste. Et ses pieds aussi étaient gardés des fosses creusées de toutes parts pour le faire tomber. Parce que Dieu a rendu les choses très claires. Il nous a appelés à lui pour nous sauver de nos péchés, pour nous amener sur son chemin, celui de la sanctification, mais aussi pour être au service, le suivre. et dans son chemin de justice, d'intégrité, de persévérance, on ne peut suivre que par cette dépendance constante sur Dieu lui-même, sur sa force. C'est pour ça que dans ce récit, le complot échoue à nouveau. Où est-ce qu'on trouve le secret, la force de Néhémie? Regardez le verset 14. Il avait démasqué les visiers des prophètes qui avaient été soudoyés par l'ennemi. Il lève simplement les yeux et il dit, « Souviens-toi, ô mon Dieu, de Tobia, de Sanballat et de leurs œuvres, et ainsi que de Naodia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchaient à me rendre craintif. Évitant tout conflit, ouvert comme étant inutile, il s'en remet à Dieu, le juste juge. Paul lui-même, plus tard, profondément blessé, parce qu'il le considérait comme étant un frère, écrit dans 2 Timothée 2,14, Alexandre, l'ouvrier en cuivre, a montré envers moi beaucoup de méchanceté. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Et je crois qu'il nous faut être attentifs à ces exemples qui nous sont donnés. Il y a des formes de mal qui ne peuvent être ouvertement attaquées sans qu'il en résulte du dommage pour nous-mêmes et pour les autres. Et bien des mauvais ouvriers doivent aussi être simplement mis de côté. Les attaquer de face servirait seulement la cause de l'ennemi. Mais notre ressource, dans de tels circonstances, c'est de crier à Dieu. Vois, Seigneur, leurs menaces. Souviens-toi d'eux. Le Seigneur nous donne aussi le discernement nécessaire pour que nous puissions savoir comment nous conduire avec sagesse dans nos combats spirituels. C'est ainsi que l'adversaire jetait toutes ses troupes de réserve à l'assaut d'un seul homme. Mais Dieu était là et il fortifiait les mains de son serviteur. Et Dieu est là aussi présent dans ta vie pour te fortifier, pour que nous ayons tous le prénom Néhémie, homme de foi, femme de foi, selon le cœur de Dieu. Voici ce que dit le prophète Jérémie, Jérémie 15. Je te ferai être à l'égard de ce peuple une muraille d'airain bien forte. Ils combattront contre toi, mais ils ne prévaudront pas sur toi, car je suis avec toi pour te sauver et pour te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des hommes mauvais et te rachèterai de la main des violents. Voilà une vie et un service efficace, couronné de succès, c'est ma prière en tant que votre pasteur et serviteur pour que Dieu vous amène à être couronné de succès pour lui. Mais souvenons-nous des 4 éléments essentiels qui sont soulignés ici. D'abord, être conscient des dangers spirituels, la nature des dangers spirituels. Deuxièmement, connaître la nature de nos défenses, nos armes spirituelles, et de revêtir ces armes, qui n'est autre que revêtir Christ. Troisièmement, se remettre entre les mains de Dieu. Psaume 27 dit « Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel protège ma vie. De qui aurais-je peur ?» puis refuser de se compromettre. Et là, je reprends le psaume premier. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait lui réussit. Et c'est mon vœu pour chacun d'entre vous. Alors que vous avancez bien en avant avec le Seigneur dans votre vie, que vous soyez des Néhémies pour votre temps. Nous tous des Néhémies pour notre temps. Parce que tout est entre les mains de Dieu. Et c'est à lui qu'est la réussite. Tout cela par grâce. Une grâce infinie. Et c'est ce chant que je souhaiterais que nous puissions chanter ensemble maintenant.